Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne podcast de Cessia. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un sujet passionnant et essentiel, l'accessibilité.
VoiceOver activé.
Si vous aimez plonger dans des discussions enrichissantes et explorer de nouvelles perspectives, vous êtes au bon endroit. Laissez-nous vos impressions en commentaire et embarquez avec nous pour cette aventure captivante.
Il suffit parfois d'un simple exercice de pensée pour bouleverser totalement notre perception du quotidien.
C'est clair.
Imaginons la scène. C'est le matin, le réveil sonne, on ouvre les yeux, mais la pièce reste plongée dans le noir absolu.
Le cauchemar un peu, non ?
Bah oui, complètement. Et par réflexe, on tend la main vers la table de chevet pour attraper un smartphone. Et là, nos doigts glissent sur une plaque de verre parfaitement lisse.
Ouais, il n'y a aucune touche physique.
Exactement, aucun repère tactile. L'écran s'allume peut-être, mais on est incapable de lire l'heure. Alors on cherche un cadran classique à aiguille, mais là encore, sous nos doigts, la vitre plate protège farouchement les informations.
C'est là qu'on ressent une véritable sensation de vertige, en fait.
C'est ça. Comment la technologie, qui est censée tout faciliter dans nos vies, comble-t-elle ce vide immense quand la vue vient à manquer ?
C'est la grande question.
Bienvenue dans notre nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, notre dossier se base sur une source plutôt inattendue pour répondre à cette question. Ce n'est pas un laboratoire de recherche hautement confidentiel, ni un essai médical hyper complexe.
Non, c'est juste une simple page web d'e-commerce.
Voilà, et c'est justement ça qui est fou.
Ce qui est fascinant ici, c'est la pertinence de cette source. On plonge dans le catalogue en ligne d'une société nommée CCIA. Alors, bien entendu, notre objectif aujourd'hui n'est absolument pas de faire du téléachat, hein.
Ah non, surtout pas.
Ni de promouvoir des produits. Notre mission à travers cette exploration, c'est vraiment de décoder les mécanismes de cette technologie spécialisée.
Ouais.
Comment des objets, qu'ils soient d'une simplicité désarmante ou au contraire d'une complexité technique inouïe, façonnent très concrètement l'autonomie et l'inclusion des personnes aveugles ou malvoyantes.
Exactement. Et pour quiconque s'intéresse un peu à la façon dont le monde est construit, comprendre la conception de ces objets, ça offre un regard radicalement nouveau sur ce qu'on appelle le design universel.
Complètement. On pourrait se demander pourquoi on passe du temps à analyser un catalogue de vente.
C'est vrai, ça peut paraître rébarbatif.
Mais quand on regarde un peu au-delà des prix et des photos, on découvre en fait une cartographie extrêmement précise des barrières invisibles qu'une partie entière de la population doit franchir tous les jours.
Réveil numérique parlant et grand caractère.
Un nom très descriptif.
C'est le moins qu'on puisse dire. On vit une époque où la technologie grand public semble totalement obsédée par la complexité. Je veux dire, on a besoin d'une mise à jour logicielle pour faire fonctionner un réfrigérateur.
Ah ouais, les fameux frigos connectés.
C'est ça. Et nos montres connectées ont des sous-menus infinis juste pour régler un minuteur pour les pâtes, quoi. Tout est tactile, tout est caché, tout est soi-disant épuré, et puis paf, on tombe sur ce réveil.
Et ce qui marque immédiatement, c'est la philosophie de conception qui est littéralement à l'opposé des standards actuels de la Silicon Valley.
Complètement. Pour donner une image mentale à ceux qui nous écoutent, c'est un objet en PVC blanc en forme d'amande qui fait environ 15 cm de long pour 14 de large et qui pèse 250 grammes, à peu près la taille d'un gros livre de poche.
Un bel objet, mais très simple.
Ouais. Mais ce qui frappe, c'est vraiment l'interface. Au lieu d'avoir un écran tactile hyper complexe, il possède seulement 3 petits boutons de réglage à l'avant. Et sur le dessus, il y a un bouton absolument massif de 9 cm de large.
9 cm, oui.
9 cm sur un objet qui en fait à peine 15 au total. C'est gigantesque. C'est le summum du design minimaliste fonctionnel.
Et on comprend assez vite que cette simplicité absolue, c'est pas un choix esthétique pour faire joli dans un magazine de déco, hein. C'est une nécessité vitale. L'ingéniosité de cette conception, elle réside dans sa capacité à répondre simultanément à deux réalités physiologiques très très différentes.
Parce que c'est vrai, on confond souvent la malvoyance et la cécité totale.
Exactement, il y a souvent une confusion, or les besoins ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, pour la basse vision, donc les personnes malvoyantes, le réveil déploie des stratégies visuelles extrêmes.
C'est-à-dire ?
Il utilise un rétroéclairage bleu très spécifique, parce que certaines longueurs d'onde sont mieux perçues par un œil endommagé, et il affiche des chiffres numériques de 12 mm de haut, donc plus d'un centimètre, avec un contraste maximal.
Ah ouais, d'accord. Donc on pousse vraiment les curseurs visuels au maximum pour ceux qui voient encore un tout petit peu.
C'est ça, on capitalise sur le moindre reste visuel. Mais de l'autre côté, l'objet s'adresse aussi aux personnes totalement aveugles. Et là, le paradigme change du tout au tout.
Oui, l'information visuelle n'existe plus du tout.
Voilà. Donc il faut transférer cette information vers d'autres sens. C'est là qu'interviennent ces fameux boutons larges et en relief, qui offrent un repérage tactile immédiat. Et bien sûr, le canal auditif. Le bouton géant active une synthèse vocale.
Ah, la fameuse voix de réveil.
Exactement. L'alarme elle-même, elle est pensée de manière séquentielle. Pour ne pas surprendre la personne, elle émet d'abord 4 bips, puis elle annonce vocalement l'heure. Ils ont même intégré 3 niveaux de volume différents.
Pourquoi 3 niveaux ? Juste pour le confort ?
Pas seulement. C'est tout simplement parce que la déficience visuelle, notamment chez les personnes âgées, s'accompagne très très souvent d'une baisse de l'audition.
Ah, j'y avais pas pensé. C'est hyper logique en fait. C'est vraiment une fusion parfaite de 2 réponses sensorielles dans un seul boîtier, vendu à quoi, 28,90 €?
Oui, à un prix très abordable.
Et le fait qu'il fonctionne avec 3 simples piles AA standard, les fameuses LR06, ça permet d'éviter la corvée de chercher une prise électrique à tâtons le long d'une plinthe. Tout a une raison d'être.
C'est du pragmatisme pur.
Mais au-delà de la mécanique pure, ce qui donne vraiment vie à cet objet dans notre source, ce sont les retours des utilisateurs. C'est là qu'on passe de l'analyse d'un morceau de plastique à la vraie réalité humaine.
Ah oui, les avis clients.
Sylvie M., qui explique que la voix claire de l'appareil est parfaite pour sa maman âgée dont la vue décline.
Un usage très classique.
Mais l'histoire qui fait vraiment réfléchir, c'est celle partagée par une autre cliente, nommée Laetitia N., fin 2022.
Et c'est un témoignage qui illustre parfaitement l'enjeu psychologique derrière ces outils.
Absolument. Elle raconte que son frère, qui a perdu la vue, apprécie tellement ce réveil qu'il lui en a demandé un deuxième pour pouvoir l'emporter lorsqu'il voyage.
Pour avoir toujours ses repères avec lui.
C'est ça. Et d'ailleurs, il y a cette petite anecdote très, très pragmatique dans son commentaire. Pour lui faciliter la vie, elle avait commandé en même temps un petit lot de 4 piles vendues sur le site pour environ 2,90 €.
Ouais.
Et exceptionnellement, il manquait une pile dans le paquet à la livraison. Mais bon, le problème a été vite résolu avec une pile de secours trouvée à la maison. L'appareil lui-même coûte main de 30 €, on l'a dit. Mais ce qui est marquant, c'est pas le prix ou le petit souci de pile. C'est la conclusion de Laetitia.
Qu'est-ce qu'elle dit exactement ?
Elle dit que grâce à cela, son frère peut connaître l'heure, je cite, « en toute indépendance, sans devoir demander ».
Et si l'on relit cela au contexte global, cette phrase, elle contient toute la philosophie de notre sujet du jour.
Vraiment.
La notion de dépendance, c'est quelque chose de souvent épuisant psychologiquement, devoir systématiquement demander quelle heure il est, demander ce qui est écrit sur une boîte de conserve.
Ou demander si un vêtement est bleu ou noir le matin.
Exactement. Cela place l'individu dans une position de subordination permanente vis-à-vis de son entourage. C'est une perte d'intimité qui est énorme. Pouvoir se réveiller à 3 h du matin, appuyer sur un gros bouton et savoir l'heure de manière autonome, sans réveiller personne.
C'est magique, en fait.
C'est bien plus qu'une question pratique. C'est la restitution d'une dignité fondamentale.
Faisons une pause là-dessus une seconde, car cela soulève une question presque vertigineuse pour notre exploration. Si un simple réveil à 29 € permet de résoudre le problème de l'heure et de rendre cette part d'autonomie intime, comment on fait pour les tâches infiniment plus complexes de la société moderne ?
C'est là que le défi commence vraiment.
Oui, savoir qu'il est 8 h du matin, c'est vital. Mais ensuite, comment on lit un contrat de travail ? Comment on navigue sur un logiciel de comptabilité ? Comment on fait des études supérieures ? Bref, comment on fait pour ne pas être exclu du monde professionnel et intellectuel ?
Alors, pour répondre à cela, il faut s'éloigner un peu du réveil et regarder l'architecture globale de notre source. Le catalogue de cette entreprise, il dévoile un écosystème technologique qui opère à plusieurs vitesses.
Ouais, et à tout.
C'est ça. On y trouve des catégories dédiées à absolument chaque aspect de la vie quotidienne. Pour la mobilité, il y a des cannes blanches spécifiques de la marque Ambutête, mais aussi des GPS vocaux hyper pointus, comme le Victor Reader Trek, affiché à 849 €.
849 € juste pour le GPS ?
Oui. Et pour la maison, on découvre des thermomètres et des balances de cuisine parlantes, des détecteurs pour repérer la couleur des vêtements, ou encore des montres tactiles très élégantes comme la E1 Radley à 339 € où on lit l'heure en touchant de petites billes aimantées.
Et il y a aussi toute une section sur l'éclairage spécialisé avec des lampes Daylight ou Voltman ou la lampe Duo à 80 €.
Tout à fait. L'écosystème est vaste.
C'est là que ça devient vraiment intéressant et un peu choquant, je dois dire. Parce que c'est en arrivant dans les sections dédiées à l'informatique et au braille que le contraste devient brutal. On passe d'un monde de petits objets du quotidien accessibles à une technologie de pointe qui donne carrément le tournis.
Les prix s'envolent, c'est vrai.
On y croise un système appelé VoxiVision à 1 889 €, des logiciels qui lisent l'écran d'ordinateur comme le Supernova à plus de 2 090 €.
Oui, le Supernova est un classique du secteur.
Et le sommet, c'est un appareil appelé Plage Braille, le modèle Eurobraille B.Note, qui culmine à 2 599 €. Honnêtement, je me fais l'avocat du diable ici, mais comment on peut justifier une telle disparité économique?
Je comprends tout à fait la réaction.
Non, mais on passe d'un réveil à 29 € le prix d'un livre broché en gros, à un bloc-notes Braille à 2 600 €. C'est le prix d'une petite voiture d'occasion. Est-ce qu'on n'est pas face à une industrie qui gonfle artificiellement ses prix parce qu'elle s'adresse à un public qui, n'a pas d'autre choix que d'acheter?
C'est une réaction très légitime, et le choc du prix est bien réel quand on découvre ce catalogue. Mais si l'on décortique un peu la mécanique industrielle et technologique derrière ces outils, on comprend que ce n'est pas de la spéculation. C'est la dure loi de l'ingénierie dans des marchés de niche.
Ah bon? Comment ça?
Prenons l'exemple de cette fameuse Plage Braille, Eurobraille à 2 600 €. Cet appareil, c'est une véritable merveille de micromécanique miniature. Contrairement à un écran d'ordinateur classique ou un smartphone qui affiche des pixels de lumière, produits en masse pour des milliards de consommateurs.
Ouais, des pixels plats sur un écran.
Voilà. Une plage braille, elle, doit produire un relief physique, tangible. Elle est composée de rangées de cellules contenant de minuscules picots en plastique. Et sous chaque picot se trouve un cristal piézoélectrique.
Attends, un cristal piézoélectrique? Hein? C'est-à-dire?
Et c'est quoi ce truc?
Pour faire simple, c'est un matériau très spécifique qui a la propriété de se déformer physiquement lorsqu'on lui applique un courant électrique.
Ah d'accord.
Donc quand la personne lit une ligne de texte sur son écran d'ordinateur, le logiciel envoie des impulsions électriques à la plage braille. Les cristaux réagissent instantanément, ils se déforment et ils poussent les picots vers le haut pour former les lettres en braille directement sous les doigts du lecteur.
C'est un peu de la science-fiction en fait.
Et le plus fou, c'est que dès que la personne passe à la ligne suivante, les picots redescendent et se reforment instantanément dans une nouvelle configuration. C'est une prouesse mécanique en temps réel qui exige une précision absolue et les coûts de recherche de développement et de fabrication pour ce type de matériel sont colossaux. Surtout que ces coûts sont répartis sur un nombre d'acheteurs extrêmement restreint si on compare aux milliards de personnes qui achètent des smartphones grand public, j'imagine.
Exactement. L'économie d'échelle n'existe quasiment pas ici. On produit en petite série. Et c'est exactement le même problème pour les logiciels à 2 000 €.
Les logiciels de lecture d'écran?
Oui. Un logiciel comme ça ne se contente pas de juste lire du texte bêtement. Il doit analyser l'architecture complète d'une page web, comprendre où se trouve le menu, où se trouve le contenu principal, ignorer les pubs.
Ouais, faire le tri, quoi.
C'est ça. Et surtout, il utilise des systèmes de reconnaissance optique de caractère complexe, ce qu'on appelle l'OCR. L'OCR doit analyser des images pour en extraire le texte caché et le lire à haute voix.
Ah oui, l'OCR, c'est gourmand en ressources.
Très gourmand. Et le pire, c'est que ces logiciels doivent être mis à jour en permanence. À chaque fois que Windows, Apple ou Google font une simple mise à jour de leur système d'exploitation ou de leur navigateur...
Ah, je vois le problème, ça casse tout.
Voilà. Les créateurs de logiciels pour malvoyants doivent retravailler leur code en urgence pour s'assurer que l'ordinateur de l'utilisateur ne redevienne pas soudainement silencieux et totalement inutilisable. Tout ce travail d'ingénierie continue, ça a un coût faramineux.
L'explication technique est fascinante, c'est indéniable. On comprend mieux le prix de l'innovation. Mais bon, le résultat social, lui, reste le même. L'accessibilité a un prix prohibitif.
C'est vrai, la barrière est là.
Si l'inclusion professionnelle ou scolaire dépend d'un investissement de 3 000 €, il est évident qu'une grande partie de la population risque de rester sur le bord de la route. C'est une sorte de double peine pour les personnes déficientes visuelles.
Et c'est sans doute un des plus grands défis du secteur de l'accessibilité aujourd'hui. Cependant, en explorant minutieusement les recoins du site de notre source, on trouve des preuves tangibles que cette barrière financière est bien prise en compte. Elle est prise à bras-le-corps par l'entreprise.
Tu veux dire qu'ils essayent d'atténuer le choc?
Oui, ils ont mis en place toute une infrastructure d'économie circulaire. Sur le site, on ne trouve pas seulement des produits neufs sortis d'usine. Il y a des rubriques entières dédiées aux appareils reconditionnés.
Ah oui, j'ai vu ça.
Il y a aussi des espaces de dépôt-vente où des particuliers peuvent revendre leur matériel d'occasion ou encore des produits de démonstration vendus avec d'importantes décotes.
Oui, j'ai remarqué par exemple une loupe électronique très haut de gamme en dépôt-vente qui voit son prix chuter significativement. Et ils mettent aussi beaucoup en avant des facilités de paiement comme la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais.
Exact.
Et ça, c'est pas juste une technique de vente classique d'e-commerce. Ça ressemble vraiment à une tentative structurelle d'amortir le choc financier pour les familles.
Cela montre une conscience aiguë de la réalité financière de leur public. Et cela nous mène d'ailleurs à la dimension la plus révélatrice de ce catalogue, selon moi.
Laquelle ?
Eh bien, jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé de matériel, de puces vocales, de picots mécaniques, de logiciels d'OCR, mais l'approche de cette entreprise dépasse très largement la simple distribution de machines. Quand on examine leur menu de service, on découvre un tout autre monde.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? C'est vrai que si on quitte la section boutique en ligne et qu'on regarde les autres onglets du site, l'arborescence est super riche. On trouve des rubriques pour des prestations et des formations.
Et c'est là le cœur du réacteur.
On voit des services dédiés aux professionnels, à la téléphonie pro, aux kinésithérapeutes et même la conception de cours en ligne de MOOCs. Il y a aussi cette mention très claire concernant la sensibilisation et rééducation.
Voilà.
Et c'est en voyant ça qu'on réalise un point fondamental. Disons que je réussisse à réunir les 2600 euros, j'achète cette fameuse plage braille ou ce logiciel ultra complexe. Je reçois le colis chez moi, je le déballe, et ensuite...
Bah ensuite, t'es un peu perdu.
Complètement. Si je viens de perdre la vue, je ne connais pas le braille. Je ne connais pas les centaines de raccourcis clavier nécessaires pour naviguer sur un ordi sans utiliser de souris. En fin de compte, sans formation, ma machine à plusieurs milliers d'euros n'est rien d'autre qu'un presse-papier de luxe.
Cela soulève une question importante. Et c'est la grande illusion technologique que cette source vient déconstruire sous nos yeux. Acheter l'outil, le hardware, ne crée pas l'inclusion. L'inclusion se trouve dans la maîtrise de l'outil.
C'est tellement vrai.
Les labels et certifications de l'entreprise, affichés un peu partout en bas de page, sont cruciaux pour comprendre cette démarche. On y trouve par exemple la certification Calliope.
Ah oui, le fameux label de formation.
Exactement. C'est la marque officielle en France qui garantit la qualité des processus de formation professionnelle. On y voit aussi le label Le Coq Vert pour leur engagement écologique. Mais le plus marquant, c'est leur statut légal d'entreprise à mission.
Alors, pour clarifier pour ceux qui nous écoutent, être une entreprise à mission, en France, c'est pas juste un joli slogan marketing qu'on met sur une plaquette.
Non, c'est encadré par la loi.
C'est ça. Ça signifie qu'une entreprise a officiellement et légalement inscrit des objectifs sociaux, sociétaux ou environnementaux dans ses statuts, au même titre que la recherche de profit classique.
Absolument. Et l'objectif sociétal ici, c'est clairement l'autonomie et l'inclusion. La conjonction de la vente de matériel informatique complexe d'un côté... et des certifications de formation de l'autre, prouvent que la technologie pure ne représente peut-être que 20% de la solution.
Et les 80% restants ?
Eh bien, c'est l'accompagnement humain. C'est le formateur qui vient s'asseoir à côté de la personne pour lui réapprendre patiemment à lire avec ses doigts. C'est l'ergonome qui va se déplacer dans l'entreprise pour sensibiliser les collègues de bureau et les employeurs.
Oui, parce qu'il faut adapter tout le poste de travail.
Voilà. Offrir le logiciel le plus puissant du monde ne sert à rien si on ne rééduque pas la personne et si on n'éduque pas son environnement professionnel direct. Le véritable pont vers l'indépendance est bâti par des humains, pas seulement par des puces électroniques.
C'est une perspective vraiment puissante si on prend un peu de recul sur le voyage que nous venons de faire aujourd'hui.
Un long voyage.
Oui, voilà. Nous sommes partis d'un modeste réveil en plastique blanc avec son énorme bouton central conçu pour pallier intelligemment la perte visuelle. Et en tirant sur ce petit fil, on a déroulé toute la complexité d'un univers parallèle.
Un écosystème complet.
Nous avons découvert la mécanique fascinante des cellules piézoélectriques, on a compris les réalités économiques impitoyables des marchés de niche, et surtout, nous avons vu que l'autonomie est un édifice super fragile, où la machine ne fonctionne qu'avec le soutien de la formation humaine.
C'est le mot de la fin. La machine ne fait pas tout.
Pour tous les esprits curieux, c'est une formidable leçon sur la conception de notre environnement. Imaginez simplement, regardez les objets autour de vous en ce moment, dans votre cuisine ou sur votre bureau. Si la lumière s'éteignait définitivement, combien de ces objets deviendraient soudainement des blocs lisses, inertes et totalement inutilisables ?
Ça fait froid dans le dos quand on y pense. Et pour prolonger un peu cette réflexion, je propose de nous arrêter sur une idée un peu provocatrice, inspirée par les actions de sensibilisation que nous avons observées dans notre source.
Je t'écoute.
Aujourd'hui, notre modèle de société fonctionne presque toujours par correction a posteriori. Le monde matériel et numérique est conçu, codé et bâti d'abord par et pour des personnes voyantes.
C'est la norme par défaut, ouais.
Et ensuite, seulement ensuite, on mobilise des trésors d'ingénierie, des algorithmes d'OCR et des machines à 2600 euros pour tenter de rendre ce monde accessible à ceux qui ne voient pas. On panse les plaies en gros.
C'est vrai qu'on répare après coup.
Mais... imaginons un renversement total de ce processus. À quoi ressemblerait notre technologie grand public, nos smartphones, nos logiciels d'entreprise, si dès la toute première ligne de code, dès la première esquisse de design, ils étaient pensés et structurés d'abord par et pour des personnes aveugles?
Ah ouais. Ça changerait la texture même de notre réalité numérique.
Exactement.
L'accessibilité ne serait plus une sorte d'option hyper coûteuse qu'on rajoute à la fin, avec des rustines, mais ça serait le socle même de la technologie.
C'est un sacré changement de paradigme.
En tout cas, la prochaine fois que ce réveil sonnera dans le noir, l'expérience ne sera probablement plus tout à fait la même. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de nos sources.
Merci infiniment à tous nos abonnés d'avoir écouté le podcast de Cessia. Le podcast de l'accessibilité. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et avons hâte de vous retrouver pour un nouveau podcast. Vos idées et suggestions nous inspirent, alors n'hésitez pas à nous les partager. À très bientôt et prenez soin de vous.